Bonjour, Marie Delcourt de Bar et Ornella Bon, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet entretien qui se déroule dans le cadre du 12e Printemps des sciences humaines et sociales organisé par la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. Marie Delcourt de Bar, vous êtes docteur en histoire environnementale, associée au Centre de recherche interdisciplinaire en sciences de la société de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Vous avez soutenu une thèse intitulée Espaces forestiers et sociétés en Avesnois, du 14e au 18e siècle, études du paysage. Ornella Bon, vous êtes plasticienne et co-organisatrice, pardon, d'exposition. Vous travaillez ensemble dans le cadre d'une recherche-création portant sur les dynamiques et les représentations des paysages forestiers de l'Avesnois. En tant qu'historienne de l'environnement, Marie, vous vous intéressez à la géohistoire des forêts et à l'histoire du paysage. Vous considérez la forêt comme le fruit d'une construction à la fois écologique et sociale, et vous proposez des scénarios d'évolution du paysage en croisant des sources iconographiques, écrites ou encore cartographiques. Vous intégrez à votre démarche les humanités numériques et la recherche-création pour mieux comprendre les enjeux territoriaux d'aujourd'hui. Ornella, de votre côté, vous vous attachez à retranscrire visuellement ces dynamiques de paysage dans le temps. Nous allons donc vous écouter nous raconter la manière dont vous avez envisagé et mené ensemble cette recherche-création autour du paysage forestier de l'Avesnois entre le 14e et le 18e, en commençant peut-être par redéfinir l'objet paysage et en expliquant ce que vous entendez par recherche-création. C'est à vous.
Merci Constance pour cette présentation. Et merci aussi donc à la Maison européenne des sciences de l'homme de nous avoir invités à présenter notre travail dans le cadre du 12e printemps des sciences humaines et sociales qui porte sur le végétal. Alors nous allons commencer cette présentation par contextualiser notre travail et développer certaines notions, notamment celles de paysage et celles aussi de recherche-création. Dans les années 1970, le concept de paysage va être revisité par les sciences humaines et sociales. Et c'est grâce notamment à la notion de paysage vécu que les historiens et les géographes vont se tourner vers le paysage. Celui-ci apparaît comme le lieu où s'intègrent des dynamiques naturelles, mais aussi des faits humains. Le paysage est désormais considéré comme un objet hybride, pouvant être observé par les sciences naturelles et par les sciences sociales. Le paysage est alors une double vue qui s'offre au regard, une vue à la fois d'un espace physique que l'homme peut étudier pour ses caractéristiques propres, telles que la végétation, le climat ou le relief, mais aussi une vue que l'homme perçoit et ressent différemment au fil du temps. L'historien a la capacité de percevoir le paysage comme le ferait le géographe en associant les caractéristiques physiques du paysage et la dimension culturelle. Cependant, le seul regard de l'historien ne peut suffire lorsqu'il s'agit de proposer des scénarios d'évolution paysager d'un territoire hérité de l'action des hommes, car la nature qui s'offre à nous aujourd'hui, à notre regard, est un héritage de l'action des hommes. Certes, l'historien dispose d'un ensemble d'outils qui lui permettent dans un premier temps d'analyser les sources historiques, puis de percevoir des dynamiques paysagères du territoire d'étude. Mais le paysage est aussi une conception visuelle et sensible. Il semble important pour l'historien de proposer des scénarios hypothétiques d'un paysage vécu. Ce qui a pu être fait par la recherche-création. Alors, la recherche-création, c'est une démarche de recherche qui est établie, pardon, à partir de ou à travers un processus de création, encourageant dans son sillon la diffusion d'une production artistique et d'un discours de nature théorique. Très rapidement, avec Ornella Bon, nous avons été amenés dans ce processus de recherche-création, à développer des outils et des méthodes afin de parvenir à une proposition de scénario plausible. Cette recherche-création s'appuie tout d'abord sur les sources de l'historien de l'environnement. Cette étude a été menée sur les limites actuelles du territoire de l'Avesnois qui ne correspond pas à la réalité politique de l'époque, la frontière étant mouvante au fil du temps. L'Avesnois se caractérise sur le plan historique entre le XIVe et le XVIIIe siècle par sa position de zone frontière, de terres qui ont été disputées, de populations qui ont presque continuellement à supporter une accumulation de difficultés, de crises de nature différente. Ces dernières troublent les besoins élémentaires des hommes, mais également le rythme des écosystèmes forestiers. C'est ainsi qu'au début des 14e, 17e siècles, l'Avesnois a connu des troubles politiques importants tels que la guerre de Cent Ans ou encore la guerre franco-espagnole du 17e siècle qui a profondément marqué le territoire et les écosystèmes forestiers. Les sources témoignent également d'un contexte climatique sensible, de nombreux épisodes orageux, des tempêtes, des sécheresses aussi, qui entraînent des crises économiques et sociales telles que la famine. De nombreuses structures politiques et administratives sont présentes sur le territoire de l'Avesnois, telles les seigneuries, qui ont produit de nombreuses sources écrites, iconographiques ou cartographiques, que l'historien peut analyser pour produire des scénarios d'évolution des paysages de l'Avesnois. Commençons par les sources écrites. Ces sources écrites permettent d'analyser la relation homme-milieu forestier à travers le temps. Une analyse classique des documents d'archives entre le XIIIe et le XVIIIe siècle a ainsi été menée après dépouillement dans différents fonds d'archives. Ces documents, qui sont en grande majorité des documents de gestion du domaine, c'est-à-dire des règlements, des lois, mais aussi des comptabilités, fournissent des informations le plus souvent partielles sur la localisation des massifs forestiers, leur toponymie, leur superficie, l'état des bois, le climat, les compositions en flore et en faune, les activités humaines en forêt. En dépit du fait que le dépouillement qui a été mené est quasi exhaustif, cette documentation écrite offre une vision éclatée de la complexité des relations société-environnement forestier, à la fois dans le temps, puisque les données se veulent plus précises et plus nombreuses à partir du XVIIe siècle, mais aussi dans l'espace. Il y a une surreprésentation de certains massifs forestiers, tels que la forêt de Mormal, par exemple. Cette analyse des archives écrites a été couplée à une étude des cartes anciennes qui permettent de localiser les forêts anciennes, justement, qui existent avant le minimum forestier que l'on cale au XIXe siècle. Je présente ici donc la carte la plus ancienne étudiée à l'échelle du territoire, qui est la carte de Claude Mas et fils, qui date de 1738-1740, et qui représente ici donc la lisière ouest de la forêt de Mormal et ainsi une partie de la haie d'Avesnes, hein, qui est donc la forêt en forme de croissant que vous avez un petit peu plus au sud-est de la carte, qui a quasiment disparu aujourd'hui. C'est un bois qui a quasiment disparu aujourd'hui. Le travail du cartographe, donc Claude Mas, s'inscrit dans la politique de levée des côtes de France qui est voulue et développée par le ministre Colbert dans le cadre de sa grande politique économique et maritime. Il est nommé à Lille en 1724 pour lever avec ses deux fils, François et Claude Félix, la carte de la frontière entre la Meuse et la mer du Nord. Ce dernier va se retirer donc à Meusière pour y mourir en 1736 et c'est son fils aîné qui va reprendre la cartographie de la région. Il est nommé en 1726 en tant qu'ingénieur du roi et il va lever les cartes de Flandre et de Hainaut. Les cartes sont généralement dessinées à la plume et aquarellées et sont très, très précises. Un autre type de source, ce sont les sources iconographiques. Donc, la plus connue est celle des albums de Creuil. Donc, Charles de Creuil est un grand propriétaire foncier, c'est un collectionneur qui est averti et c'est un homme qui est soucieux de connaître l'état de ses possessions, de ses terres. Il commande à cet effet donc, une collection d'albums dont le projet va naître dès les premières années de son règne. Donc, l'ensemble va être réalisé entre 1596 et 1601. Il décide de reproduire en fait chacune des localités qu'il possède, et cela à la gouache. Donc, il va demander à un artiste qui est valenciennois, qui s'appelle Adrien de Montigny, dont on ne connaît pas les autres œuvres. Il semble qu'il soit au service exclusif du duc. Donc, le travail qui lui est confié à Adrien de Montigny est énorme, puisqu'il va devoir parcourir chaque localité que possède le duc de Creuil et proposer un croquis sur papier colorié de chaque ville, chaque village, chaque château, chaque abbaye que possède le comte. Il voyage à la belle saison en général, hein, pour produire ses esquisses. Et c'est à l'hiver qu'il va produire véritablement son œuvre. Pour donner une allure un petit peu plus majestueuse à ses dessins, il va les agrémenter de fleurs, de fruits, d'oiseaux et d'animaux domestiques, comme vous pouvez le voir sur la vue de la ville de Lequesnoy. Au total, nous disposons de 127 communes de la Vénois qui sont répertoriées donc dans ces albums de Creuil. Et cela permet à l'historien d'obtenir une première vision des paysages anciens, captés à un instant T de leur histoire, c'est-à-dire au tout début du XVIIe siècle. Pour autant, l'historien s'interroge toujours sur ce que mettent en scène ces albums. Est-ce là la représentation d'un beau paysage ou d'un paysage réel? Quelle est la part de l'imaginaire de l'auteur? En témoignent, par exemple, les épisodes de guerre qui ont affecté le territoire, hein, dont je vous ai parlé juste avant, et qui ne sont absolument pas traduits dans ces albums. Les sources écrites, cartographiques, iconographiques, hein, toutes les sources qui ont pu être étudiées, ont été intégrées à une base de données qui est nommée Forest East et analysées ensuite afin de construire des scénarios d'évolution du paysage avénois à travers le temps.
La problématique soulevée par l'historienne revient à se pencher sur l'apport d'un point de vue subjectif et sensible au point de vue objectif de l'historienne. Y a-t-il un risque d'altérer le message de l'historienne ou au contraire d'éclairer son travail? Pour tenter d'y répondre, nous allons aborder ma démarche artistique qui nous amènera vers l'explication de mon processus créatif en partie axé sur la notion du souvenir. Ma démarche artistique se décline en trois axes qui sont l'observation et la retranscription visuelle du réel dans un point de vue subjectif. Le souvenir basé sur des réalités hétéroclites, notamment le rêve et les stimuli sensoriels. Et enfin, la création dans l'hybridation de plusieurs réalités et la reconstitution. L'observation du réel, dans le cas du dessin et de la peinture, c'est retranscrire graphiquement un modèle, un être vivant en mouvement et en 3D, en trois dimensions, sur une surface plane. Cela demande une capacité à adapter les proportions du sujet dans le format du support. Le but premier consistait à restituer une représentation la plus ressemblante du modèle. Réaliser plusieurs fois des croquis d'un même modèle permet une appropriation de ses propriétés, de son aspect et sa façon de se mouvoir. Une fluidité plus conséquente accompagne le geste, l'esquisse, les traits plus précis. J'ai intégré une façon de recopier qui est pour l'instant efficace. Premier obstacle que je rencontre, ma perception du réel, via le prisme émotionnel, amène à une esthétisation du sujet. J'en venais à sublimer la réalité. Inconsciemment, je me fabriquais un canon de beauté qu'il fallait déconstruire. Ensuite, même si la représentation se veut réaliste, elle est le résultat d'un point de vue subjectif. Il y a déjà le choix d'un angle, de l'orientation de la lumière. Cela relève déjà d'une projection de mon univers intérieur vers le monde extérieur. Enfin, je me suis rapidement confrontée à un enjeu de taille, le temps de réalisation, dans la retranscription à l'instant T du modèle vivant. Cet exercice requiert des aptitudes à la rapidité, à l'organisation, quant à la composition, et déjà une capacité mémorielle pour pallier à des changements de posture du modèle. Les chats sont de parfaits sujets de représentation sur le caractère imprévisible de leur mouvement. Un sentiment d'inachevé dominé, c'est comme si la réalité s'échappait de mes mains, tel le sable qui s'écoule. Comment saisir l'essence d'une réalité en s'extrayant en partie de celle-ci? Une solution m'est apparue. L'art de la mémoire, que l'on retrouve d'ailleurs dans les échanges entre individus et procédés artistiques au Moyen-Âge, m'a inspiré. Quant à moi, mes fondamentaux sont la préservation des pans de réalité. Ils se regroupent en une collection de dessins-souvenirs constituant des balises spatio-temporelles et traçant les contours évolutifs de mon approche personnelle du monde. La mémoire cognitive de mes habitudes techniques me permet de représenter le sujet en son absence. Mais qu'en est-il des sujets que je n'ai jamais dessinés au préalable, dont je me souviens? Tout réside dans l'émotion, laquelle optimise la durée de mémorisation. Enfin, je souligne l'importance de l'exploration sensible du monde, le corps et les sens, qui sont acteurs et vecteurs de nos expériences. Je vais illustrer mon propos. Dans le cadre de l'organisation de l'exposition « Voyage au cœur du paysage avesnois à Dantan, regards croisés 14e-17e en 2017 », j'ai mis en scène une performance artistique que j'ai nommée « L'artiste impoli ». Elle consiste à s'asseoir face au spectateur et le scruter du regard tout en le mettant à l'aise pendant 1 à 2 minutes. Dans un second temps, je devais lui tourner le dos, l'artiste impoli, et commencer le croquis coloré en représentant l'interlocuteur qui ne doit pas excéder 3 minutes. Pourquoi ? Car au-delà, il y aura une tentative de combler par trop d'éléments fictifs les parties floues du croquis et s'éloigner du souvenir. Je dois recourir à mon imaginaire et à une logique dans l'objectif de reconstituer une image vraisemblable. Nous sommes déjà dans la création. Une des participantes de la performance a été bouleversée en larmes car des réminiscences variées de son passé ont ressurgi et a remarqué que je l'ai figurée 10 ans plus jeune au moment exact de son divorce. Je suppose que j'ai pu ressentir une infime partie de la réalité psychique de cette personne. Je vais établir rapidement un parallèle entre la notion du rêve et l'intrication d'espace-temps. Tout au long de notre journée, notre psyché effectue un emmagasinement des affects, des événements dans l'inconscient. Les éléments réprimés vont s'exprimer dans le sommeil à travers le rêve qui recombine plusieurs réalités hétéroclites, trop insupportables pour l'individu. Celles-ci sont encodées en une forme symbolique qui envoie un message acceptable. Carl Gustav Jung, médecin psychiatre, affirmait que nos rêves et cauchemars pouvaient nous prévenir d'un événement ou maladie future auquel nous sommes déjà au fait inconsciemment. Au Moyen-Âge, les croyances conféraient aux rêves un pouvoir. Ils contenaient un message prophétique envoyé par les dieux. Cela m'évoque l'œuvre de Gentile da Fabriano, qui s'intitule « La Vierge à l'enfant » avec Donateur entre Saint-Nicolas et Sainte-Catherine, qui signifie à travers la couleur sombre qui teinte le voile de la Vierge, le destin futur du Christ. Alors que l'inconscient est déjà dans une démarche créative, ma conscience crée de manière similaire pour véhiculer un autre type de message. Intéressons-nous à la création, le dernier axe de ma démarche artistique. Elle est alimentée par les deux axes précités. Selon moi, créer, c'est inventer une idée originale tout en la cadrant au contexte actuel et à son environnement. À l'instar du rêve, la conception, l'invention d'une chose ne peut, à mon sens, venir du néant. Il s'agit de matérialiser et assembler des perceptions de temporalité variées. Il faut un lien logique, l'imaginaire, le fictif, pour obtenir un résultat cohérent. D'où vient cette fiction? Comment est opérée l'hybridation? Penchons-nous sur le processus créatif afférent au scénario d'évolution formé par 4 peintures à l'huile. J'affectionne la métaphore de 2 arbres en pleine croissance pour parler de notre travail interdisciplinaire. La source de savoir et connaissance nourrie par les racines entremêlées tisse un lien traduisant une volonté commune. Valoriser la recherche par la création et la croisée des regards sur le paysage. L'association des deux savoirs fabrique une sève au parfum spécifique participant au développement de centaines de feuilles. Elle représente l'interaction continue et la production d'une centaine de croquis que je classe en 3 types. Il y a la représentation erronée, la retranscription visuelle des données et les dessins préparatoires. D'un commun accord, nous avions convenu d'une méthode expérimentale. Il fallait fournir une production erronée comme base de travail. L'erreur édifie une structure que Marie a rectifiée systématiquement. Il en est ressorti que ma proposition laissait entendre un fonctionnement totalement anarchique de la forêt compensée par l'aspect esthétique et sensible. Nous sommes passés à la phase exploratoire afin d'éviter le parasitage des biais d'interprétation. Voici un exemple humoristique qui illustre très bien ceci et la croisée des regards. La phase exploratoire est un enchaînement de questions-réponses en écartant au maximum les biais d'interprétation qui ont transformé ma représentation du sujet étudié. J'ai accumulé une centaine de croquis inspirés d'observations directes et de recherches. L'élaboration du travail est éclairée par la connaissance de nouvelles données faisant bourgeonner des croquis supplémentaires. L'historienne m'a appris à reconnaître les essences forestières, à déterminer leur, spéc- leurs spécificités, comme les essences héliophiles, qui ont besoin de beaucoup de soleil par rapport aux autres, leurs maladies, comme la descente de cygne, les conséquences d'un déséquilibre, l'impact de l'histoire sur l'environnement, bref, à me rendre accessible un domaine méconnu et expliqué par une pédagogie excellente et non dénuée d'une sensibilité. Le stade suivant est la mise en place des dessins préparatoires pour chaque construction de composition des quatre tableaux. Il s'agit de fonder une cohésion entre les croquis en noir et blanc et colorés, entre leur degré d'exactitude, agencer tous les éléments en respectant un semblant de perspective. Dans le fond, le challenge a été d'extraire des éléments du présent pour apporter de la consistance à des lignes à peine ébauchées du passé, tout en apportant du relief via mes souvenirs sensitifs et sensoriels. La finalisation du travail artistique peut commencer tels des fruits en train de mûrir. Nous allons en étudier quatre. Les quatre peintures à l'huile reflètent l'aboutissement d'un long travail de recherche et de mise en place des éléments. L'enjeu principal consiste à assembler des données de différentes natures, iconographiques, bibliographiques et de temporalité qui se déroulent du XIVe au XVIIe siècle, de les convertir en un visuel homogène et construit. Autrement dit, il s'agit de reconstituer un puzzle en optimisant l'emboîtement des pièces via la cohérence du fictif. Toutefois, il restait la question de la synthèse spatio-temporelle. Comment la suggérer? Je rappelle que le nombre de données varie beaucoup selon l'époque traitée. Par exemple, les données sont peu fournies au XIVe par rapport au XVIIe. L'emploi de la peinture à l'huile un raccord entre deux époques très éloignées l'une de l'autre, celle qui est étudiée présentement, et notre époque ultra-moderne. J'ai assimilé certaines codifications régentant l'art médiéval pour les adapter dans un regard réactualisé sur le paysage avesnois au Moyen-Âge. La lecture de l'image requiert toute son importance afin de comprendre l'apport des quatre illustrations que l'on peut nommer illustrations reconstitutives. Car nous ne sommes pas dans le registre classique des illustrations scientifiques et en dehors de l'illustration à but exclusivement décoratif. Le rôle de ces illustrations reconstitution est l'accès du savoir scientifique à un plus large public et d'être utilisé comme outil pédagogique. J'ai décidé d'être à mi-chemin entre représentation du réel et simplification de l'image pour un souci de rendu vraisemblable. Le circuit des réflexions reste ouvert à toute modification. Nous restons dans le champ des possibilités, des hypothèses dans ce qui a été. Un rendu réaliste aurait présupposé une connaissance totale du passé, ce qui est impossible à l'heure actuelle en raison du taux de données irrégulier d'une époque à une autre. Vous observez un effet de mouvement dans les touches de peinture, une sensation fugace et de flou qui évoque le courant impressionniste fondé par l'artiste Claude Monet, et notamment une de ses œuvres intitulée « Les nymphéas », qui me fascine encore aujourd'hui. Cela traduit une figuration qui mime les modifications multiples et régulières nécessaires lors de traitement de nouvelles données par l'historienne. C'est toujours en mouvement, voilà, presque inatteignable, inaccessible. En suivant cette logique, j'ai très peu détaillé le visage des personnages, attendant d'être modelé par l'enrichissement de nouvelles données fournies par Marie. Nous retrouvons ce choix chez Fra Angelico dans son œuvre intitulée « L'Annonciation », qui est la rencontre de l'ange Gabriel et de Marie. Les Italiens, n'ayant pas trouvé dans les textes bibliques le lieu précis de la scène, se sont contentés de représenter un espace abstrait. Justement, en parlant d'espace, venons-en au traitement de la perspective dans mes tableaux. Elle n'a pas de point de fuite exact, elle est plutôt à mi-chemin entre perspective dénuée de point de fuite et la perspective symbolique. Une perspective symbolique met en scène des personnages qui ont une dimension proportionnelle à leur statut, à leur importance. Le récit visuel primait sur l'illusion d'un espace réaliste. Parfois, un même personnage peut être figuré sur la même image. Donc, c'est sur l'art du Moyen-Âge. Cette forme de représentation devenait un support mémoriel pour les religieux et ceux qui étaient en situation d'illettrisme. L'homme du Moyen-Âge visualisé par devoir de mémoire, de transmission. Vous remarquerez que j'ai subtilement agrandi ou réduit certains éléments qui constituent les traits principaux du paysage avesnois. Ce choix est la résolution d'un problème Comment rendre vraisemblables des données synthétisées? Pour ne citer qu'un exemple, si je devais respecter une perspective réelle, nous ne pourrions apercevoir les chevaux à l'aspect famélique, ni l'intégralité du village sur la toile intitulée « Printemps 14e ». Il s'agit de dérouler des plans sans tomber dans une perspective aspatiale qui estomperait la vraisemblance. Je me suis inspirée des illustrations extraites des très riches heures du duc de Berry et de l'album de Creuil pour capter l'ambiance, l'état d'esprit de l'artiste de l'époque et de sa perception du paysage souvent mis au second plan, les œuvres narratives étant davantage mises en avant. Par quel moyen restituer le point de vue de l'historienne sans le trahir? Il s'agit de retranscrire un point de vue précis, scientifique, de l'historienne. Réaliser une synthèse visuelle de l'Est et de l'Ouest du paysage avesnois, ce qui inclut des centaines de points de vue et de lieux différents, ce qui est impossible matériellement parlant. Enfin, n'oublions pas que la réalité est perçue par l'homme. Ses mouvements oculaires en permanente mobilité rendent impossible un point de vue figé. L'homme perçoit des pans de réalité que son cerveau unifie. Parfois, une dégénérescence oculaire peut amener un homme à créer une œuvre d'art dont je vous ai parlé tout à l'heure, les nymphéas de Monet. Atteint de cataracte, il disait « Ma mauvaise vue signifie que je vois tout comme au travers d'un brouillard. » L'émotion jette une passerelle accessible au spectateur. Les activateurs de sensations sont les couleurs qui expriment des indices. Par exemple, le bûcheron qui se fond dans l'environnement boisé symbolise sa relation étroite avec la nature. En revanche, je me suis détachée des croyances de l'époque qui tend à discriminer les arbres en deux catégories. Le chêne symbolique associé au divin et à contrario, le hêtre associé au diable. J'ai préféré retranscrire mes souvenirs visuels et sensoriels des essences qui sont présentes au sein des quatre scénarios. Enfin, l'objectif principal est de distinguer nettement l'Ouest et l'Est en y incluant des caractéristiques propres à ces deux espaces. Par exemple, l'urbanisation est placée à l'Est, donc à main gauche du tableau, et l'Ouest est investi par l'activité industrielle et les espaces boisés. Vous pouvez apercevoir au fond, derrière les soldats, une forge. Pour finir, l'action, les événements, l'ambiance tourmentée sont indiqués par la prédominance de couleurs assombries. Il y a aussi l'agencement des lignes de force qui, dans le cas de la guerre au XVIIe, apparaissent brisées, traduisent un état instable, déstructuré. On peut observer, à main droite, les arbres qui sont meurtris, arrachés. Le changement de saison accentue la notion du passage du temps et que l'on peut retrouver dans les très riches heures du duc de Berry, contrairement aux illustrations d'Adrien de Montigny dans l'album de Creuil, figé sur une météo ensoleillée et une société qui semble n'avoir essuyé ni guerre ni tempête. Je suppose que c'est un parti pris du commanditaire. L'alignement des quatre toiles fonctionne comme une fresque du temps de l'histoire environnementale à repeindre autant de fois que l'histoire est à réécrire. Rien n'est immuable.
Nous venons de voir donc les quatre scénarios proposés donc de l'évolution des paysages forestiers de l'Ouest et de l'Est de l'Avesnois. Et je vais vous présenter très rapidement quelques caractéristiques de la relation homme-milieu forestier sur le territoire de l'Avesnois. Donc, comment gère-t-on le domaine forestier? Comment l'utilise-t-on? Et afin de maintenir l'ordre et de faire respecter leurs droits, les propriétaires forestiers disposent déjà dans un premier temps, d'un personnel qui est nombreux. Tout d'abord, les grands officiers du comté, que sont le grand bailli et le bailli des bois, hein, que vous voyez en haut de cette pyramide, de cette hiérarchie. Donc, le grand bailli assiste le comte, hein, le seigneur puissant, dans l'exercice du pouvoir, en veillant à ses intérêts dans les domaines de la justice, dans le domaine militaire, dans le domaine administratif et dans le domaine politique aussi. Il nomme le personnel forestier qui doit lui prêter serment. L'ensemble de l'argent qui est reçu et dépensé pour la gestion des massifs forestiers au nom du comte de Hainaut est de la responsabilité du receveur général de Hainaut. Le lieutenant, quant à lui, assiste le plus souvent, voire remplace même le bailli sur le terrain, dans l'accomplissement de ses tâches. Il est avant toute chose un responsable local des officiers subalternes. Il se doit de visiter les bois, de constater les infractions, de veiller avec impartialité et justice au bon déroulement des activités économiques de la forêt. Mais la gestion du domaine forestier au quotidien repose en grande partie sur un personnel d'exécution, les sergents forestiers, les gardes du pâturage, le porteur de marteau forestier, dont la position d'intermédiaire entre le pouvoir seigneurial et les habitants des communautés villageoises les rend bien souvent impopulaires auprès de ces derniers. Le sergent forestier a la garde d'une meute, c'est-à-dire d'un quartier, un quartier forestier, et il se regroupe en deux catégories. Donc, vous avez les sergents à cheval et les sergents à pied. Donc, les premiers disposent d'une monture et surveillent un espace qui est plus étendu, un espace forestier plus étendu, et les seconds sont attachés à un territoire qui est beaucoup plus limité. Les sergents forestiers exercent de multiples fonctions au quotidien, essentiellement d'ordre économique et judiciaire, donc gestion du pâturage, lutte contre le braconnage, visite des bois, constat des délits, gestion des ventes de bois. D'ailleurs, à ce propos, la forêt constitue une réserve de matériaux ligneux pour de nombreux usagers. Et le premier usager de tous ces usagers, c'est le propriétaire foncier. Qu'il soit comte, duc, prince, roi ou seigneur, ces ressources servent directement et d'abord à satisfaire ses propres besoins. La forêt est utile aussi en cas de guerre, puisqu'elle va fournir du bois pour les fortifications des places fortes en fait, et va servir aussi au quotidien, pour la réparation des moulins, pour la réparation des étangs, des chemins, des constructions en tout genre, des villages aussi qui peuvent avoir été détruits par la guerre. Il existe plusieurs types d'exploitation forestière dans la Vénois, deux types en réalité. Donc la vente à l'unité qui se fait en fonction des usagers. Donc on prélève ici et là des arbres en fonction des besoins, hein, que ce soit des chênes, des hêtres, des charmes. Et une autre technique d'exploitation, c'est ce qu'on appelle la vente par unité de surface, c'est-à-dire une surface, une parcelle forestière que l'on met en vente. Alors aujourd'hui, ça s'apparente à ce que l'on appelle les coupes par assiette. C'est le même principe. Les parcelles sont vendues et le personnel forestier impose aux acheteurs de laisser entre 8 et 15 arbres par quartier, par parcelle, pour la régénération naturelle de la forêt, parce qu'on pensait aussi à la régénération naturelle de la forêt. Le temps de coupe et de débardage ou de vidange, hein, ce qu'on appelle la vidange des bois, se fait à l'aide de chevaux, hein, c'est ce que l'on voit sur l'illustration d'Ornella, donc dans le fond, hein, donc ça se fait par chevaux, grâce aux chevaux. Ce temps de coupe et de débardage est extrêmement réglementé en Avesnois et peut varier de quelques mois à 2 ans. Qui est visible dans les sources écrites. La forêt, c'est aussi à l'époque, hein, entre le XIVe et XVIIe siècle, une forêt qui est pâturée, où les communautés villageoises, mais aussi le propriétaire, envoie paître ses troupeaux. Il existe deux grands types de pâturage, la veine pâture, qui est en fait le pâturage des équidés et des bovins, qui a lieu entre avril et octobre, bien souvent, et la vive pâture, c'est-à-dire donc le pâturage des porcs, qui lui a lieu entre le 1er octobre et le 25 décembre. Ces vives et veines pâtures sont très variables en fonction du climat, de la fructification, puisqu'on amène les porcs en forêt pour qu'ils se nourrissent de faine, par exemple. Cela varie aussi en fonction des modes de traitement et puis des faits ponctuels qui peuvent marquer l'écosystème forestier, tels que les guerres. Les moutons ou les brebis sont interdits sur l'ensemble du territoire à partir du XIVe siècle, car ces animaux en fait sont considérés comme faisant énormément de dommages, énormément de dégâts et qui pouvant mettre en fait en cause la régénération naturelle de la forêt. Nous allons, pour terminer cette rencontre, présenter le travail que nous avons mené en recherche-création en proposant un scénario descriptif du parc du château comtal de Le Quesnoy au XVe siècle. Bon nombre de châteaux à l'époque, hein, au Moyen-Âge et à l'époque moderne, disposent d'un parc que l'on assimilerait aujourd'hui à un espace vert. Pour ne prendre qu'un exemple, donc le château d'Antal situé à Le Quesnoy, donc à proximité de la forêt de Mormal, donc c'est-à-dire en lisière ouest de la forêt de Mormal, n'est pas en reste. Donc la création de ce parc est synchrone à celle de la ville neuve de Le Quesnoy, c'est-à-dire au XIIe siècle environ, et il fut aménagé initialement pour mettre en valeur la forêt de Mormal par un réseau de canaux et de viviers. Il s'étend au sud du château du comte de Hainaut et s'étend sur 400 hectares. À son extrémité se trouve une enceinte hein, que vous voyez au premier plan, qui est un mur de grès et de briques, qui est une enceinte longue de 5 km tout de même, et elle est percée par 3 portes que vous voyez juste au premier plan et gardée par des gardes. Les jardins à l'intérieur donc, de cette enceinte, on retrouve plusieurs structures paysagères. Alors, les jardins Lecomte, qui sont aussi appelés jardins Madame, selon les périodes, puisque la comtesse de Hainaut a été très présente aussi, Marguerite de Hainaut a été très présente au Quesnoy. Donc, ces jardins Lecomte sont situés donc, au sud du château, hein, que vous voyez donc juste ici. Juste ici, donc vous avez un accès privatif puisque les jardins ne sont accessibles que par une passerelle qui franchit les fossés. Donc on y trouve le jardin à porée, c'est-à-dire le jardin à légumes qui est situé contre les fossés du château où l'on cultive notamment des choux. Un autre jardin que l'on appelle le courtil ortillerèche pour les pois, les fèves et qui est entouré de haies. Chaque printemps, dans ce courtil, on y sème des oignons, des poireaux, des persils, des blettes, des choux, des laitues, du fenouil. Tout ceci est présent évidemment dans les comptabilités, hein, les sources écrites. Et enfin, un jardin fruitier qui est planté de poiriers, de pommiers. Un autre est planté de pruniers, de cerisiers, de poiriers. Le parc est avant tout constitué d'un bois que vous voyez juste ici au premier plan, qui se nomme le bois du Gard, qui est encore présent aujourd'hui. Il se compose principalement de chênes, de tilleuls, de hêtres, de trembles, de frênes, de bouleaux et de charmes. Et chaque année, le jeune bois, donc ce que l'on appelle la raspe, c'est-à-dire le petit bois, est utilisé pour les besoins du château en charpenterie, en chauffage, pour les fours ou pour les vignes, l'entretien des vignes. Il y a une autre fonction à ce parc, c'est la fonction cynégétique, puisque la comtesse Jeanne de Hainaut fait restaurer et agrandir le château de Le Quesnoy. Son mari est un grand chasseur. Il diversifie notamment les espèces en faisant venir des taureaux de Savoie en forêt de Mormal. Et cette comtesse s'attache à agrandir le haras. Donc, de nombreux équidés vont être placés dans ce parc du Quesnoy. Et le comte de Hainaut et la comtesse de Hainaut vont recevoir de nombreux animaux en don dans leur ménagerie. Les daims, que vous voyez donc ici, sont les animaux les plus en nombre. Hein. En 1462, il y a environ 300 à 400 daims à l'intérieur de ce parc. Et d'autres animaux vont venir progressivement compléter cette ménagerie. Donc, la nourriture de ces animaux consiste surtout en regains d'herbe d'avril à octobre, mais on pouvait aussi leur donner du pain, du blé cuit ou encore du lait. À partir de 1443, 3 dromadaires viennent rejoindre la ménagerie du prince, pour lesquels les comptes de la recette générale de Hainaut ne précisent pas l'origine géographique ni diplomatique. Et ces chameaux et dromadaires vont être entourés de soins très attentifs. Il y a un soigneur, le soigneur des dromadaires, qui va être nommé. Et à partir du 2 janvier 1472, d'ailleurs, le soigneur des dromadaires déclare qu'il ne reste plus que 6 des 10 dromadaires qui étaient présents, puis que 5 sont morts au mois d'octobre. Donc finalement, il n'en reste qu'un. Donc nous supposons que ces dromadaires n'ont pas apprécié le choc thermique et sont morts de froid. D'autres animaux sont présents aussi, tels que les buffles, qui sont parqués, eux, dans le bois du Gard et qui vont faire très régulièrement de nombreux dégâts, notamment aux enclos de ce parc. Une telle concentration animale, hein, les buffles, les dromadaires, les daims, les équidés, peuvent encourager donc les bestes mordantes, alors ce qu'on appelle les bestes mordantes, ce sont les renards, les loups, à tenter de trouver un festin dans ce lieu. Et c'est pourquoi ces renards et loups sont sévèrement chassés par les braconniers et les louvetiers. À partir du XVIe siècle, donc Charles Quint prend possession de ces terres et la fonction cynégétique du parc va disparaître et les terres qui étaient autrefois des terres d'enclos pour les animaux vont être transformées en terres labourables et louées à des paysans. La plantation de fruitiers, de fraisiers, de vignes, la présence de jardins de plaisance avec ses allées, ses enclos sont tant d'éléments indicatifs d'une artificialisation du paysage. Ainsi, le comte de Hainaut pouvait contempler l'étendue de ses terres, de ses bois, et il pouvait aussi savourer la vision d'un paysage, d'une nature qu'il pense maîtriser. Aujourd'hui, cet espace est occupé par la base de loisirs de Le Quesnoy qui s'appelle la Chênée des Chênées, en lien avec le nom historique de Le Quesnoy, qui signifie les trois chênes. Ce qui montre qu'il y a véritablement une évolution dans l'occupation du sol. Pour conclure, je dirais que de prime abord, les domaines historiques et artistiques semblent s'opposer, alors que le but de l'historien est d'appréhender le passé pour comprendre le présent et proposer des scénarios d'évolution, celui du plasticien a fusionné sa sensibilité, son vécu avec l'espace réel. Mais par l'échange, s'appuyant sur un intérêt mutuel, par l'adaptation aussi au vocabulaire spécifique des deux disciplines, afin d'en comprendre les enjeux, la démarche croisée se construit progressivement. L'historien recueille les données, les analyse et en les observant, les met en perspective critique, tout en ayant soin de se dégager de sa subjectivité. Le plasticien tente, quant à lui, de ressentir le monde, de comprendre son fonctionnement à partir de son intuition et de son émotion. Il imagine ce que peut être le monde et il n'affirme rien. Le regard sensible donne une forme esthétique au rationnel et le rationnel organise les impressions du plasticien. Cette association fructueuse a pu se réaliser grâce à une compréhension tacite, une interaction entre deux parties partageant un intérêt égal qui optimise l'échange. Merci de votre attention.
Merci.